Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bienvenue dans Univox, le rendez-vous universitaire de Radio Campus France. Je m'appelle Hugo et je suis journaliste à Radio Campus Angers. L'Université d'Angers accueille le plus gros fonds d'archives du féminisme de France. Depuis des années, toute une équipe de chercheurs et de chercheuses représentée par Christine Barre, historienne des féminismes et des antiféminismes, met tout en œuvre pour donner à voir des documents exceptionnels. C'est comme cela qu'est née l'AFEMUSE, l'Association pour la préfiguration d'un musée des féminismes. Soutenue par l'Université d'Angers, l'AFEMUSE est pourtant toujours sans lieu et sans argent. Alors la bibliothèque universitaire du campus de Belbeille à Angers a ouvert ses portes pour une première exposition. Cette exposition s'appelle « Les femmes sont dans la rue, révolte, submersion, émancipation ». Juliette Cotin, journaliste et bénévole à Radio Campus Angers et Radio Campus Tours, a pu échanger avec Christine Barre et Lucille Desvulder pour vous présenter cette exposition, le travail de ces chercheurs et ces chercheuses, ainsi que les grands enjeux autour de l'histoire des féminismes. A noter que l'émission d'une heure UF Club, de laquelle est issue cette émission, est à retrouver sur les sites de Radio Campus Tours et Radio Campus Angers. Très bonne écoute.
Univox. Alors pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Christine Barre, historienne des féminismes, entre autres, et Lucille Desvulder, chef de projet de l'AFEMUSE. Alors l'AFEMUSE, c'est l'association pour un musée des féminismes. Créée en 2023, elle porte ce projet de musée, le premier en France, avec notamment l'Université d'Angers et le Centre des archives du féminisme. Le 27 février dernier, l'AFEMUSE a ouvert les portes de sa toute première exposition intitulée « Les femmes sont dans la rue ». Elle retrace les mobilisations des femmes dans l'espace public de 1789 à nos jours, en s'appuyant sur plus de 300 œuvres et documents. C'est une plongée dans l'histoire des luttes qui met en évidence la présence des femmes à travers l'histoire dans les revendications féministes, mais aussi politiques et sociales plus générales. Avant même que le mot féministe existe, elles sont présentes dans les marches, sur les barricades de la Révolution française et de la Commune de Paris. Elles portent des revendications universelles, mais aussi des revendications spécifiques pour l'égalité et leur droit à elles, celui de voter, celui de disposer de leur corps, celui de ne plus subir les violences de genre. Ces femmes en lutte, qui chantent, qui crient, qui militent, sont le plus souvent anonymes, même si quelques-unes traversent malgré tout l'histoire. Au fil des siècles, l'oubli, ou plutôt l'effacement des femmes de l'histoire, en France comme ailleurs, se répète. Leurs noms, leurs œuvres, leurs combats sont invisibilisés, et c'est aussi pour cela que l'ouverture d'un musée des féminismes est indispensable, pour laisser des traces de ces femmes et de leur lutte dans l'espace public et dans la mémoire collective, et s'assurer qu'elle ne retombe pas dans l'oubli. Alors Christine Barre, je le disais, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, des féminismes, entre autres. Vous avez écrit de multiples ouvrages et vous enseignez à l'Université d'Angers en histoire contemporaine. Votre travail et vos engagements militants contribuent à faire œuvre de mémoire. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ces mécanismes qui font que les femmes, au fil de l'histoire, ne cessent de disparaître quasiment magiquement de nos livres et de nos esprits, du coup?
Merci pour votre invitation, merci pour cette question très importante. Alors j'ai aussi comme spécialité l'histoire des antiféminismes, et là est la réponse. C'est par antiféminisme que les femmes sont régulièrement oubliées, leurs archives négligées, et que dans le récit historique tel qu'on le transmet par tous les moyens de transmission de l'histoire. Les femmes sont invisibilisées ou caricaturées ou placées dans des rôles très spécifiques et réducteurs. Alors on pourra toujours dire oui, mais on a des choses sur les munitionnettes pendant la guerre de 14-18, où on connaît le nom de quelques résistantes. Oui, on connaît le nom de Louise Michel, maintenant on connaît Olympe de Gouges, mais c'est quand même extrêmement limité. Souvent limité à quelques grandes figures, je ne peux plus supporter cette expression, des grandes figures d'ailleurs qui sont pas toujours très bien traitées non plus, il y a les légendes noires hein, de ces grandes figures. Donc le récit, quand il existe, il est problématique, il est caricatural, il est souvent malveillant, stéréotypé, et puis il y a aussi eu pendant longtemps juste un énorme silence sur l'histoire des femmes, et c'est ce que j'ai connu quand j'étais étudiante en histoire.
Moi j'étais étudiante aussi.
On n'est
pas de la même génération,
c'est difficile.
C'est la même
voilà,
chose.
J'ai 60 ans, j'ai fait mes études d'histoire au début des années 80. Et l'histoire des femmes à l'université avait déjà commencé avec notamment Michel Perrault à l'université de Paris 7, et puis beaucoup d'autres hein, dans toutes les périodes de l'histoire. Et pas seulement sur l'histoire occidentale, ça a progressé. Enfin, j'ai quand même le sentiment d'avoir vécu une révolution dans le domaine des savoirs. Il y a vraiment énormément de choses.
Alors,
ça remplit les bibliothèques.
On va y revenir justement. Ouais. Et en fait, on a aussi cette idée que les femmes ne font pas partie de l'histoire. Parce qu'elles étaient, d'une certaine façon, empêchées d'agir, d'accomplir, de créer par leur statut dans la société, peut-être par la maternité, par le manque d'éducation. Mais en réalité, les femmes aussi, elles étaient partie prenante, bien sûr, dans toute notre histoire. Il en reste des traces si on les cherche, finalement.
Oui, et puis même, enfin, être mère, c'est une activité. Ça fait partie de l'histoire. Les rôles féminins font partie de l'histoire. Le rôle des femmes dans la vie quotidienne, dans le travail domestique, le travail éducatif, c'est de l'histoire. Donc c'est de l'histoire qui a été méprisée, négligée, qui n'était pas vue comme quelque chose de très important. Et aujourd'hui, quand même, on le prend mieux en compte. Mais pour répondre complètement à la question, oui, malgré toutes sortes d'entraves, toutes sortes d'empêchements, les femmes ont toujours été actives dans la sphère publique et se sont toujours révoltées d'une manière ou d'une autre, même avant l'existence d'un mouvement féministe, de mouvements sociaux collectifs dans lesquels elles ont pu s'exprimer. Alors parfois, c'était des révoltes qui étaient dans le prolongement de leur rôle, par exemple de leur rôle nourricier. Ça, on le voit, il y a une allusion à ça au début de l'exposition. Protester contre le prix des denrées alimentaires en s'armant parfois, en résistant aux forces de l'ordre, c'est une forme aussi d'expression politique féminine.
Vous le disiez tout à l'heure, d'un point de vue académique, vous avez vécu une forme de révolution. L'histoire des femmes, c'était un sujet de recherche qui était pas inexistant finalement dans la recherche académique universitaire. Donc c'est un sujet de recherche qui est tout à fait récent. C'est plutôt à partir des années 70. Hein, vous parliez de Michel Perrault. Il y a eu son fameux cours de 1973 qui a lancé finalement cette question comme un pavé dans la mare, puisqu'elle a fait un cours en fait qui s'appelait « Les femmes ont-elles une histoire ?» avec deux de ses collègues. Et du coup, à ce moment-là, on commence vraiment à s'intéresser aux particularités de l'histoire des femmes. Pourquoi est-ce que c'est resté un angle mort de la recherche auparavant? Parce qu'il peut y avoir quand même si on invisibilise les femmes et qu'il y a des mécanismes là qui sont identifiables, parfois la recherche est un peu en avance sur le reste de la société. Parfois.
Parfois. En l'occurrence, Michel Perrault a toujours l'honnêteté de dire que ce cours, il a été créé à la demande des étudiantes. de ces étudiantes qui avaient fait mai 68 et qui participaient au MLF qui apparaît en 1970. Et il n'y avait jamais eu autant d'étudiantes. Il y avait une croissance du nombre d'étudiantes. Il y a aussi une croissance du nombre de femmes enseignant et faisant de la recherche à l'université. Et c'est cette féminisation à deux niveaux qui a rendu possible l'éclosion de recherches d'inspiration féministe, que certaines n'hésitaient pas à dire féministe, d'autres hésitaient un peu, comme Michel Perrault. Bon, ça, il y avait un gros débat sur faut-il s'afficher féministe ou pas quand on fait de la recherche. Parce que bon, elles étaient mal vues, elles étaient combattues, y compris par leurs collègues de gauche qui trouvaient que c'était des sujets peu, voilà, peu importants.
Et du coup, qu'est-ce qui change quand on étudie l'histoire au prisme du genre? Qu'est-ce que ça change finalement? On pourrait se dire, bah, l'histoire, c'est l'histoire, que ce soit celle des hommes ou celle des femmes, si je pousse le...
Alors déjà, le prisme du genre amène aussi à travailler sur l'histoire des hommes, mais autrement. C'est vraiment une grille de lecture qui concerne tous les aspects de l'histoire. Donc c'est vrai que quand on parle d'histoire du genre, on imagine plutôt l'histoire des femmes, mais en fait non, c'est voir comment tout a été codé, encodé, féminin, masculin, hiérarchisé, les rôles, les fonctions, les représentations, jusqu'aux couleurs. Les couleurs ont un genre, et bien ce genre des couleurs, il a une histoire. Donc ça, on peut faire de l'histoire économique, des relations internationales, de l'histoire politique, de l'histoire culturelle, au prisme du genre. Donc il y a un potentiel heuristique, hein, de découverte énorme, et ça je trouve que c'est vraiment génial.
Univox.
Si on revient au centre des archives, ici, en fait, il y a des chercheuses et des chercheurs qui viennent de toute la France, hein, pour consulter ces archives.
Du monde entier.
Donc, concrètement, en fait, qu'est-ce que vous conservez dans ce centre? Qu'est-ce qui fait qu'une archive est une archive des féminismes et la qualifie, entre guillemets, pour faire partie, finalement, de votre fonds?
Alors, l'autonomination ne suffit pas. C'est-à-dire que Némésis peut venir avec ses archives, on va leur dire « Non, c'est pas ici
!» Il faut faire un musée des féministes tradis fachos.
Disons qu'elles sont pas féministes surtout, donc elles sont tradis fachos, mais elles sont pas féministes.
Elles y croient.
Non, elles disent que, parce que c'est une stratégie et qui fonctionne pas si mal que ça, parce que je vois que c'est quand même beaucoup repris dans les médias. Donc en fait, il y a aussi être reconnue comme féministe par les autres. Le fait qu'elle soit virée des manifestations à chaque fois montre bien systématiquement que non, pour les féministes dans toute leur diversité, ces femmes-là ne sont pas féministes. Elles instrumentalisent la cause des femmes pour servir un discours xénophobe, nationaliste, anti-immigré. Bon, je referme la parenthèse Némésis, mais qu'est-ce qui fait que c'est féministe? C'est des féminismes, et c'est tout ce qui est relatif à l'émancipation, la libération des femmes, donc c'est des mouvements collectifs, on les connaît déjà d'une manière ou d'une autre. Ça permet d'approfondir un tel parcours militant ou telle vie associative. Il y a les archives du planning familial, par exemple.
Alors, ça prend quelle forme concrète, en fait? C'est des archives, des lettres, des documents,
on adorerait,
des affiches.
On adorerait avoir des lettres, parce que dans les lettres ou dans les mails, souvent, on dit tout ce qu'on pense, à la différence des documents de communication politique qui, eux, sont plus lissés. Alors, les deux sont intéressants, mais malheureusement, on a de moins en moins de lettres. On en écrit moins. On ne garde pas forcément nos mails. Le téléphone, ça ne laisse pas de traces. Il nous manque une partie de l'histoire. Forcément, c'est la règle du jeu. Les traces du passé ne sont jamais complètes. Donc on va trouver beaucoup de documentation. On voit à quel point, finalement, dans les archives, le mouvement féministe est aussi un mouvement intellectuel, hein, qui a un caractère qui s'appuie sur des faits, des études, beaucoup de ce qu'on appelle la littérature grise, des mémoires, des rapports, des enquêtes. Les féministes disent pas n'importe quoi, ça s'appuie vraiment, il y a la preuve des inégalités qu'il faut apporter. Ça, c'est un aspect très très important. Et puis les féministes s'expriment de toutes sortes de manières. Ça peut prendre une forme littéraire, les utopies, des écrits plus personnels. On en a, hélas, pas assez. Et on a beaucoup d'archives d'associations, en fait. Il ne faut pas oublier que le féminisme, il a quand même, depuis le dernier tiers du 19e siècle, une base associative hyper solide. Sans les associations, il n'y aurait pas eu grand-chose. Et aujourd'hui encore, ça structure le mouvement. Il y a une culture partagée dans les associations, il y a une efficacité collective, il y a l'organisation d'actions. Alors aujourd'hui, il y a plus d'individualisme que dans le passé. Et on peut être féministe toute seule dans son coin, c'est sûr. Hein, on peut, mais c'est quand même une condition sine qua non du féminisme d'avoir une organisation collective qui prend la forme de multiples associations, mais des centaines à travers l'histoire. Bon, il y en a quelques grosses qui sont structurantes et on a la chance de les avoir à Angers.
Alors, et justement, une fois que ces archives, elles sont conservées, l'idée, c'est aussi de mieux les valoriser aujourd'hui, de les rendre plus accessibles au grand public et pas seulement aux chercheurs et chercheuses qui viennent jusqu'à vous à Angers. Et pour ça, il faut organiser un petit peu les choses. Du coup, certaines archives du fonds sont mises en valeur, d'ailleurs, dans l'exposition coordonnée par la FEMUS tout récemment. On va revenir sur l'exposition tout à l'heure, mais on peut peut-être s'intéresser d'abord à cette association. Donc la FEMUS, c'est, je le disais tout à l'heure, l'association pour un musée des féminismes. Christine, là encore, vous êtes l'instigatrice de ce projet-là, de musée. Comment est-ce qu'on passe de l'association des archives, du centre des archives, à cette idée-là de musée, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit
alors, que vous dites... Dans ma vie à moi, il y aura plusieurs manières de raconter l'histoire. Dans ma vie à moi, il y aura eu, disons, trois moments importants. Le premier, c'est une tentative de création d'un musée de l'histoire des femmes à Paris en 2001, 2002, 2003. Une tentative qui a échoué alors qu'on était déjà bien avancé dans le projet avec une association. On avait un programme scientifique et culturel qui était rédigé. Enfin, c'était... 2 ans d'action intensive et puis finalement la mairie de Paris qui a renoncé. Ensuite, il y a eu la création de Muséa, un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre. Donc à nouveau, une assez grande amplitude, mais avec quand même pas mal d'expos sur le féminisme. Et Muséa existe toujours, hein, c'est une production de mon laboratoire d'histoire Thémos. Ça existe depuis 20 ans, c'est long sur le web, on a déménagé plusieurs fois le site, mais voilà, ça correspondait à mon goût aussi d'une transmission de l'histoire des femmes par l'image. J'aime beaucoup l'histoire visuelle. Et puis, la troisième étape, ça a été la réalisation de l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnavalet. Donc, une expo qui a eu lieu en 2022-2023 à la demande du musée Carnavalet. Et,
c'est le musée d'histoire de la ville de Paris, c'est ça.
Et ça a été une très belle expérience, un travail pendant 3 ans avec un beau catalogue. L'expo a eu un succès fou. Il y a eu presque 100 000 visites en 4 mois.
Une expo extrêmement riche.
Ouais, très riche. Et puis j'ai appris, moi qui suis historienne, donc enseignante, chercheuse, là j'ai vraiment appris. Au musée Carnavalet, comment on faisait une expo et l'importance des objets notamment. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que c'était très utile, que malheureusement un Carnavalet c'était un one shot. Ensuite, le musée est revenu à des sujets plus classiques. Et c'était évident qu'il y avait un besoin d'avoir quelque chose de pérenne sur l'histoire des féminismes qui serait à la hauteur du dynamisme des recherches et de la beauté aussi et de l'intérêt des traces sous forme d'objets. Parce que tout à l'heure, en parlant d'archives, finalement, on n'imaginait sans doute pas les objets. Et c'est très à la mode, hein, l'histoire par les objets en ce moment. Donc on est complètement dans la tendance actuelle. Mais on a, en tout cas, tout en lançant la première expo du futur musée des féminismes, on a lancé une collecte d'objets. Voilà, je ne sais pas si on va y revenir.
On va y revenir, mais on peut en dire un mot maintenant. Hein.
Oui. Donc c'était l'occasion, là, le lancement de ce projet, de faire le point sur les objets qui étaient d'ores et déjà dans les collections du Centre des archives du féminisme. Et l'air de rien, il y en avait quand même 300. Donc pas encore des banderoles tellement, mais des badges, des t-shirts, des statuettes, des menaces de mort sous forme de têtes de mort envoyées à des militantes en faveur du respect du droit à l'IVG. Mmh. Donc toutes sortes de choses, 300. Et puis on s'est dit, mais avec cette première expo « Les femmes sont dans la rue », on pourrait accompagner avec une collecte qu'on a appelée la récolte féministe et de toute la France, mais surtout de certaines grandes villes, on a eu des dons d'objets, donc presque 300 aussi. Donc,
Des dons d'associations, de particuliers.
Plutôt de militantes, avec quelques curiosités, des vêtements, des déguisements. Donc il y a un aspect vestimentaire, les pañuelos argentins et chiliens qui sont portés par les militantes dans les manifestations et pas seulement dans les manifs. Elles gardent tout le temps au poignet ou sur leur sac à dos leur foulard violet ou vert pour montrer leur féminisme. Les pussy hats de la grande manifestation de 2017 contre Trump, donc les bonnets tricotés roses. Donc il y a tout un aspect vestimentaire, des déguisements de servante écarlate. Et puis il y a parfois des pièces magnifiques. Alors le planning familial du Nord, c'est génial. Elles brodent leurs banderoles. Et il y a aussi beaucoup d'humour sur ces objets parce que c'est rarement des objets sans mots. Hein, c'est des objets qui portent quand même un message et ça, il y a des dessins, c'est brodé, c'est magnifique. J'en oublie peut-être, Lucille, des objets remarquables de la collecte.
Oui, bah tu as dit beaucoup de choses, mais en effet, il y a aussi beaucoup de badges qui ont servi dans les manifestations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de témoignages justement des personnes qui ont offert ces objets au musée et au Centre des archives du féminisme et qui racontent en fait l'histoire de ces objets, ce que ça signifie pour elles, comment ils ont été utilisés. Et donc ce qui est intéressant, c'est évidemment les objets en eux-mêmes, mais aussi toute l'histoire qu'il y a derrière et d'avoir les voix des personnes qui racontent ces histoires, c'est incroyable.
Est-ce qu'on peut peut-être juste revenir en quelques minutes sur peut-être comment elle s'est construite, cette exposition? Donc c'est là, au sein du Centre des archives, vous avez fait tout un travail de recherche, justement, de documents, d'objets qui sont montrés ici. Il y a aussi tout un travail de scénographie. C'est très chouette parce qu'on visite cette exposition comme si on était nous-mêmes dans une rue. Il y a des passages piétons qui sont matérialisés, il y a des panneaux qui font comme des pancartes, en fait, enfin des cartels qui sont comme des pancartes. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu cette réflexion sur la scénographie?
Oui, donc la scénographie, elle a été réalisée par l'agence Lulis avec Marie-Gabrielle Verdoni, évidemment en collaboration étroite avec Ludivine Bantini, donc la commissaire scientifique de l'exposition, qui a vraiment fait un énorme travail de recherche, d'aller dans les archives, dans les musées pour construire cette exposition qui est vraiment très riche et très dense. Et c'était important ce travail sur la scénographie, puisqu'évidemment c'est ce qui apparaît aux visiteurs et aux visiteuses, c'est ce qui permet d'appréhender l'exposition et de lui donner une forme, un contenu. Et donc ce travail sur la scénographie, il est vraiment super. Comme vous disiez, ça reprend l'idée de la rue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'espace de l'exposition est réalisé dans le couloir en fait, de la bibliothèque Belbey, qui est un assez grand espace, et qui était déjà dénommé la rue avant même qu'on fasse l'exposition. Donc c'est un heureux concours de circonstances. Et on utilise la scénographie a vraiment utilisé cet espace. L'exposition peut d'ailleurs se visiter dans les deux sens. Donc c'est comme une rue qui se traverse. Avec en effet des cartels qui sont comme des pancartes, des passages piétons dans lesquels les visiteurs et visiteuses peuvent voir leur reflet. Et le vert aussi, les deux couleurs vert et violet, donc les couleurs du féminisme. Et un accrochage très dense qui rappelle aussi un petit peu celui de Parisienne citoyenne.
Et justement, vous parliez tout à l'heure de tout ce travail autour de la médiation, puisque effectivement, il faut accompagner une exposition. En tout cas, c'est mieux. Donc, vous avez mis en œuvre des visites qui vont se faire là dans les prochains mois, puisque l'exposition elle est visible jusqu'au 22 juin. C'est peut-être bien de le rappeler. Du coup, outre ces événements-là, il y a aussi tout un coin que j'ai trouvé très chouette de médiation un peu, où on est invité à jouer à un qui est-ce féministe, à créer nos propres pancartes avec, il y a des ciseaux, du fil, du carton, et puis on peut se mettre à nous-mêmes faire nos pancartes pour les prochaines manifs. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce petit coin-là?
Oui, bah c'est super important. Il y a de plus en plus de recherches sur la médiation dans les musées. Et c'est vrai que souvent, dans les musées, le public a été un peu oublié. En fait, paradoxalement, on s'est beaucoup concentré sur la conservation des œuvres, leur étude, mais la valorisation auprès du public, elle a parfois été oubliée. Et ces dernières années, il y a vraiment eu beaucoup de recherches dans les musées sur la question de la médiation, de comment justement parler au public et de quelle manière. Et avoir ces dispositifs de médiation, ça permet justement de transmettre cette histoire des féministes d'une autre manière, de manière plus ludique, par la création, par le jeu, par l'inspiration. C'est vrai que cet atelier de création de pancartes, il est installé juste en face d'un mur d'affiches. Et donc on voit vraiment que voilà, on peut s'inspirer directement des affiches qui ont été réalisées. Et ensuite, on a créé donc à droite du mur d'affiches un autre mur d'affiches, mais des créations des visiteurs et visiteuses. Il y a beaucoup de choses. On change toutes les semaines, on doit changer les créations parce qu'on en a beaucoup. Et donc c'est très important. Et au-delà de cette médiation-là, il y a aussi évidemment la question de la médiation humaine qui est très importante, puisque le fait d'avoir une visite guidée, ça peut être, c'est très important pour les textes de l'exposition sont quand même assez denses, assez riches, et le fait d'avoir une personne qui explique l'exposition d'une manière différente, ça permet d'avoir une accessibilité plus large. Et donc on a beaucoup de visites, notamment pour les scolaires, même pour le jeune public à partir de 9 ans. Donc ça, c'est très important. Et des visites aussi pour le grand public, qui sont évidemment gratuites et accessibles à tous. Donc, c'est très important.
Et a priori, donc là, vous êtes en train de préparer une visite virtuelle, la transposition de cette exposition. Alors vous le disiez, en version itinérante aussi, pour qu'elle puisse essaimer un petit peu partout en France, mais aussi à travers le monde virtuel d'Internet. Vous savez déjà quand est-ce qu'elle sera disponible en ligne, cette exposition, ou pas encore?
Avant la fin de l'année, on aimerait bien. À la rentrée, peut-être.
Eh bien, très bien. Ce sera un rendez-vous alors. Le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
D'être venues nous parler de ce musée. Je rappelle que l'expo est visible à la bibliothèque de l'Université d'Angers, donc jusqu'au 22 juin 2025. Vous pouvez suivre aussi les réseaux de la FEMUS pour connaître les dernières infos pour justement les prochaines visites, les prochaines expositions, et puis ce projet de musée des féminismes. Et puis un grand merci à toutes les deux, et puis à très bientôt.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.